Une journée.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. C'est l'occasion aussi de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous dans cette émission. En tout cas, on en a parlé lundi et vous avez été nombreux tout au long de la semaine et vous l'êtes encore ce matin à souhaiter réagir à la décision de la Confédération africaine de football de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. On y reviendra évidemment longuement tout à l'heure, et sachez, je le rappelle, c'est important, c'est bien que vous le sachiez, le président Hamad, le président de la Confédération africaine de football, sera tout à l'heure ici dans nos studios à RFI, dans Radio Foot International. Il répondra évidemment aux nombreuses questions que tout le monde se pose, et voilà, on en saura certainement un peu plus d'ailleurs concernant les prochaines éditions de la CAN, puisque vous savez que cette décision prise la semaine dernière à Accra a par ricochet des répercussions sur l'édition 2021 et 2023. Autre sujet qui ne vous a pas laissé indifférent au standard, c'est cette colère sociale en France, avec en toile de fond évidemment ce mouvement des gilets jaunes. De nouvelles manifestations sont attendues demain, c'est un samedi à haut risque, notamment à Paris. L'Élysée redoute une très grande violence, 80 000 policiers déployés à travers la France, 8 000 policiers et gendarmes à Paris. Jean-Baptiste, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bienvenue sur l'antenne. Merci de nous appeler de Ouagadougou. Vous disiez au standard qu'au Burkina Faso, vous avez finalement les mêmes revendications que les gilets jaunes en France.
Oui, effectivement. Je disais tantôt que la France va exporter son mouvement, les gilets jaunes. C'est-à-dire que la hausse du coût de la vie devient en fait le premier commun que les Français rencontrent et les Burkinabés. Bon, finalement, au Burkina Faso, il y a des appels à mobilisation qui n'a pas les mêmes connotations que les gilets jaunes à France, mais il y a les mêmes revendications. Les travailleurs ont des difficultés pour boucler les fins de mois. Les gouvernants, on a l'impression que les gouvernants ne nous comprennent pas. Donc, évidemment, aujourd'hui, notre modèle démocratique est remis en cause. Oui. Est-ce que l'ossature même de la République aujourd'hui n'a pas un problème?
Comment est-ce que... Alors, vous parlez de manifestations, Jean-Baptiste, vous parlez de manifestations, des milliers de personnes ont manifesté la semaine dernière contre l'augmentation des prix du carburant. Est-ce que d'autres marches sont prévues? Avez-vous le sentiment tout de même d'être compris par le gouvernement? Quel est le climat aujourd'hui sur place?
Bon, aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, que le gouvernement ne nous comprend pas. On a vu qu'en France, il a fallu qu'il y ait de la violence pour que le gouvernement réagisse. Bon, on se demande au Burkina Faso, est-ce qu'il ne faut pas en arriver là? Bien que nous déplorons la situation, nous ne voulons pas qu'il y ait de la violence, mais si le gouvernement ne nous écoute pas, on est obligé de passer par les mêmes chemins que la France pour obliger nos gouvernants à nous écouter, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile pour les travailleurs, avec ce qu'ils gagnent à la fin du mois. S'ils n'arrivent pas à faire face à ces charges mensuelles, bon, comment voulez-vous que dans un pays, que des gens qui ont le même travail, certains arrivent à s'en sortir et d'autres pas?
Oui, d'autant que le salaire minimum est de 49 euros, un peu plus de 32 000 francs CFA, et cette augmentation des prix du carburant est perçue, et comme ça a été perçu en France, comme la taxe de trop. Restez en ligne, Jean-Baptiste. Alain Joseph, bonjour.
Bonjour Rouané, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez d'Allemagne, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Et vous comprenez, vous, ce mouvement des gilets jaunes?
Non seulement je le comprends, mais je le soutiens parfaitement, Rouane, parce qu'il m'apparaît comme le champ de signe de la démocratie néolibérale occidentale qui a laissé la majorité des citoyens au bord de la route au profit des puissances d'argent. Pour moi, l'émergence des gilets jaunes montre que la justice sociale et la redistribution des richesses nationales ne doivent pas, ne peuvent pas rester de simples mots, et que pour les imposer, il faut à un moment ou à un autre que les citoyens surgissent sur la scène politique pour rééquilibrer les rapports de force.
Ouais. Enfin, là, on parle de pouvoir d'achat. Jean-Baptiste faisait référence à la situation au Burkina Faso. Alain Joseph, vous parlez essentiellement de revendications économiques. Mais enfin, les Gilets jaunes, si vous les écoutez attentivement, ils ont une liste de revendications aussi longue que mon bras, parce que ça va effectivement de revendications sociales, économiques, réforme institutionnelle, certains réclamaient il y a encore quelques jours la suppression du Sénat, l'organisation de référendums populaires, d'autres exigeaient même la démission du président Macron.
Oui, mais Rouen, si vous écoutez toutes ces revendications, il y a une ligne de fond qui les lie. En fait, c'est quoi? Les populations, les citoyens ont le sentiment que la démocratie a été confisquée par les pouvoirs d'argent. Et cette démocratie financiarisée ne tient compte en fait que des puissants, de ceux qui financent les politiques. Et le pouvoir politique semble maintenant au service des puissances d'argent. C'est pourquoi il y a une revendication de fond qui me semble essentielle, c'est une sorte de démocratie participative. Donc au-delà des conditions sociales, au-delà des problèmes économiques, il y a le désir des citoyens de participer aussi à la prise de décision pour que ces décisions ne soient pas faites uniquement en faveur de ceux qui ont l'argent et qui financent les campagnes électorales.
Et l'une des revendications des Gilets jaunes, c'est notamment la création d'une assemblée constituante. Est-ce que ce mouvement peut faire tache d'huile en Allemagne ?
Je ne suis pas très très sûr que ça puisse fonctionner en Allemagne où le pouvoir d'achat est beaucoup plus important et le chômage moins élevé qu'en France. Par contre, j'ai l'impression qu'il peut être facilement récupéré par les mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite. Par contre, moi, mon vœu le plus intime, c'est qu'il fasse tache d'huile en Afrique particulièrement et particulièrement en République démocratique du Congo, mon pays d'origine.
D'accord. Merci Alain Joseph d'avoir appelé d'Allemagne. On poursuit à parler des Gilets jaunes. On continue la discussion avec Georges. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en région parisienne.
Oui, je suis dans la région parisienne. Donc,
Vous vous sentez concerné par ce mouvement ?
Oui, je me sens concerné. Non seulement je le soutiens, d'autant puisque moi j'ai vécu en province. Et en province, la voiture fait partie de la province. Je vous dis quelque chose. Vous allez dans une boîte d'intérim pour s'inscrire, on vous demande si vous avez une voiture, en premier lieu. Parce qu'on sait que sans la voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc, la voiture fait partie de cette. Donc, augmenter les taxes tout le temps, soi-disant, bon, je comprends la transformation écologique, il faut arriver à le faire un jour. Mais pour l'instant, on va pas tout mettre sur la même population, sur la même personne qui gagne le SMIC. C'est selon raisonnable.
Donc la décision d'annuler l'augmentation, la hausse des taxes sur les prix des carburants qui était prévue pour le mois prochain, c'est une bonne décision. Mais vous attendez davantage ?
C'est une bonne décision, d'autant plus que c'est une bonne décision, mais là où il y a le problème, on va pas se réjouir pour une taxe même qui n'est même pas encore appliquée. Vous voyez, une taxe qui est dans les tuyaux, on va pas se réjouir parce qu'on l'avait bloquée. Il y a d'autres taxes qui se sont rajoutées déjà. Il faut qu'ils revoient ça. Parce que moi, je dis, pour un Parisien qui habite à Paris, qui est écolo, je le comprends. Mais ce Parisien n'a qu'à aller vivre en province, il va comprendre le fait comment être écolo. Vous voyez, il y a une réalité dans nos provinces qui fait que on est obligé. Mais là où il y a cette colère en moi en ces derniers temps, c'est les images qu'on a vues en ces derniers temps, et bon, le premier coupable pour moi, c'est le président de la République, pour moi.
Pourquoi ?
C'est lui il est le premier coupable, parce que forcément, il y a les RG, il y a les informations, il y a les élus de la République en marche, qui ont remonté que la revendication, là, est juste, je ne dis même pas légitime, juste. Vous voyez ce que je dis ? Donc, il est au courant, il savait que c'est juste. Pourquoi il n'a rien fait ? Jusqu'à ce qu'on a vu les images qu'on a vues, avant, maintenant qu'ils réagissent, ils disent, le gouvernement, le Premier ministre, oui, ils disent qu'ils comprennent. Mais pourquoi ils n'ont rien fait aujourd'hui ?
Pourquoi avoir attendu trois semaines pour annuler la hausse des taxes ? C'est ça. Ouais.
Et là où ça devient encore grave, il y a d'autres Français en Corse qui sont pénalisés aujourd'hui. On voit les commerces qui sont fermés sur les Champs-Élysées.
Ah oui, les commerces seront fermés demain, c'est sûr, en cette période de Noël, évidemment, c'est une perte considérable, évidemment, pour les commerçants.
Donc, L'entêtement du gouvernement entraîne encore que les d'autres Français sont pénalisés aujourd'hui d'une situation que eux-mêmes ils disent qu'ils comprennent, ils ont compris.
Et puis on assiste aussi à une convergence des colères. Hein. Il y a les agriculteurs, les transporteurs routiers, les lycéens, les étudiants, les ambulanciers, les retraités, le secteur des travaux publics. La liste est longue là aussi. Merci beaucoup Georges de nous avoir appelés. Merci à vous. Bonne journée. On aura l'occasion évidemment de revenir sur ce mouvement des Gilets jaunes. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation demain tout au long de la journée, puisque voilà, des manifestations auront lieu à Paris, malgré l'appel du ministre de l'Intérieur à ne pas manifester à Paris. Des dizaines sur les pages Facebook, des dizaines d'appels à manifester sont annoncés, et les gens cliquent et affirment qu'ils seront bel et bien présents demain dans la capitale française. La Libre Antenne, 33 9 693 693 70. On a de gros problèmes au standard, donc c'est pour ça que je parle peut-être un peu plus que d'habitude. On a de grosses difficultés de liaison téléphone, mais voilà, on est en direct, c'est comme ça. On va parler maintenant de la CAN 2019. Elle n'aura pas lieu au Cameroun, vous le savez. On est à 7 mois du coup d'envoi de la compétition, et tout le monde se demande où aura bien lieu cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alors on parle du Maroc, de l'Afrique du Sud. Ce qui est sûr, c'est que l'Égypte, qui faisait partie du trio pressenti, l'Égypte renonce à se porter candidate. Ni le Maroc, ni l'Afrique du Sud n'ont officiellement déposé leur dossier. En tout cas, vous êtes nombreux à nous appeler du Cameroun. Certains comprennent la décision de la CAF, d'autres sont évidemment, et on peut les comprendre, en colère. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Yaoundé. Alors, vous comprenez la décision de la CAF ou au contraire, vous êtes déçu?
Pour moi, la décision de la CAF est irresponsable parce qu'elle ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments. La CAF était censée accompagner le développement des pays africains à travers le football. Il n'y a pas que les universités, il n'y a pas que les écoles, il n'y a pas que les hôpitaux, mais le football devait permettre d'attirer les investissements dans des pays qui étaient moins lotis que les autres. Il était là l'occasion pour le Cameroun de rattraper le retard par rapport à d'autres pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, encore que le Cameroun est l'un des pays qui a fait les meilleurs depuis plus de 40 ans sur la scène internationale.
Sur la scène internationale, en football, vous parlez?
Je parle de football.
Ah, vous parlez de football. Oui, effectivement, 5 fois champion d'Afrique, champion en titre, première équipe continentale à se qualifier en quart de finale, c'est bien ça? J'ai ça de tête en Coupe du Monde de football?
Tout à fait.
Oui, bon, oui. Mais bien sûr, ça n'empêche pas. Oui, le Cameroun a un très beau palmarès sur le plan football. Mais concrètement, en toute honnêteté, Pierre-Yves, est-ce que les infrastructures étaient suffisamment avancées pour être certain que la compétition pourrait démarrer en juin prochain dans votre pays?
Écoutez, bon, nous avons fait une CAN féminine avec 2 poules. À Lindé et à Yaoundé. Il n'y a eu aucun problème. C'était l'une des meilleures, sinon la meilleure CAN de football au féminin.
Oui.
Et nous avons fait tout le nécessaire pour rattraper le retard dont il s'agit.
Oui, ben enfin, excusez-moi, là il s'agit d'accueillir 24 équipes. Pierre-Yves, la CAN féminine, il me semble qu'elle accueille 9 équipes. Donc vous voyez, ce n'est pas la même organisation. Je voudrais qu'on donne la parole à Mohamed, qui est à Marrakech, il est au Maroc, lui. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan, bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie.
Moi, quand je vous ai appelé, c'était de Barcelone, parce que j'habite à Barcelone, mais
en ce moment,
je suis à Marrakech.
Bon.
Il y a un sujet qui peut vous intéresser pour la suite, c'est sur la migration. Il y a un forum mondial sur la migration.
On en parlera lundi, ce sera l'objet du débat de lundi. Mais bon, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, de la CAF. Moi, je comprends la déception des Camerounais, et je comprends leur colère. Mais s'il y a quelqu'un à qui il faut s'en prendre, c'est bien aux gens sur place. Je veux dire que personne ne leur a retiré la Coupe d'Afrique. Ils se l'ont retiré eux-mêmes parce que les paraît-il, hein, on n'est pas sur place, les installations ne sont pas là, toutes les réalisations ne seront pas livrées à temps. Et donc, il faut s'en prendre à ceux qui ont pris la charge d'organiser la Coupe d'Afrique au Cameroun. Donc, moi, je vous appelle, c'est parce que j'ai entendu aussi des insinuations par rapport au Maroc. Le Maroc à travailler en coulisses pour que la Coupe d'Afrique n'ait pas lieu au Cameroun, ça c'est pas vrai. Mmh. Et je voulais que ce soit dit, voilà,
bon,
c'est tout.
Ça, en même temps, ce n'est pas vrai, à moins que vous soyez au sein de la Fédération marocaine de football pour en être sûr, c'est votre ressenti, vous avez le droit. Mais vous ne pouvez pas empêcher des auditeurs de penser que effectivement depuis un moment le Maroc essaye de se positionner pour décrocher coûte que coûte l'organisation de la CAN 2019. Pierre-Yves, vous êtes à Yaoundé, vous avez entendu Mohamed qui nous appelle donc de Marrakech. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu cette semaine une réunion à Yaoundé. Le Premier ministre a réuni le comité central d'organisation de la CAN pour examiner les causes de ce retrait. Et selon l'un des participants, tous, y compris les ministres concernés par l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, se seraient accordés sur le fait que le Cameroun était loin d'être prêt, Pierre-Yves.
Je suis d'accord avec vous. Vous savez, aucune œuvre n'est parfaite. Et nous allons régler ce problème au Cameroun. Mais cependant, on aurait souhaité que, au moins, Ahmad nous dise, je vous donne une deadline de 2 mois ou 3 mois. Et je vous assure, chaque Camerounais est prêt à porter un parpaing. Il faut voir la mine des conflits de tous les Camerounais qui disent qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Chaque Camerounais attendait cet événement. Je vous assure qu'il y a eu des gens qui ont eu des AVC. Il y a eu des morts à cause de cette décision. Les opérateurs économiques, au-delà de ce que l'État a mis, les 1600 milliards. Et je vous assure, qu'est-ce qui se passe? Parce que le football est là pour unir les peuples en Afrique et non les diviser.
Oui, enfin, en même temps, vous dites qu'il aurait fallu laisser encore 2-3 mois au Cameroun. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'aperçoive la veille ou l'avant-veille du coup d'envoi de la compétition que le Cameroun ne peut pas accueillir. Le président Ahmad a des responsabilités. Il veut que cette CAN 2019 soit un succès. Ce sera d'ailleurs sa première CAN en tant que président de la CAF et première Coupe d'Afrique des Nations, formule 24 équipes. Donc il n'a pas intérêt à se planter, si vous me permettez l'expression. Il en va évidemment de sa crédibilité. Autre réaction, Claude, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons. Vous êtes également à Yaoundé.
Exactement, je suis à Yaoundé.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, en fait, pour moi, je trouve que c'est illégitime d'abord, parce que lorsqu'on regarde le règlement de la CAF dit ceci, on retire l'organisation d'une compétition de la CAN à un pays à moins de 3 mois du début de la compétition.
Et on n'est pas à 3 mois, on est à 7 mois. Excusez-moi, on est à 7 mois de la compétition.
Justement, on retire à 3 mois lorsque... Ça, c'est le règlement de la CAN. N'habille pas la CAF.
Et donc, que voulez-vous dire? Développez un peu, Claude, j'ai du mal à vous suivre.
Donc, en fait, moi, je trouve d'abord que c'est illégitime au niveau du droit, au niveau de la loi, d'abord. Ouais. Uh-huh. Et moi, je me dis que lorsque je regarde les avancées, les travaux ici au Cameroun, le Cameroun pouvait exactement être prêt le jour J, parce que les travaux sont énormément avancés, en fait.
Oui. Enfin, même, excusez-moi, Claude, je remets pas en cause votre bonne foi, mais enfin, vous dites les travaux sont avancés. Même les ministres concernés par l'organisation de la CAN auraient reconnu cette semaine, aux côtés du Premier ministre, que le Cameroun était loin d'être prêt. Donc, à un moment donné, faut être juste et réaliste.
Non, en fait, ils n'ont pas reconnu. C'est juste qu'ils ont accepté l'alternative que M. Ahmad a donnée, c'est-à-dire donner la CAN au Cameroun en 2021. Mais ce que moi, je trouve que Ahmad l'a dit, c'était juste une façon d'apaiser le cœur des Camerounais. Il ne le fera pas. Vu que c'est la Côte d'Ivoire qui a signé l'accord cadre de la CAN.
Alors, c'est dommage et je suis très frustré. Nous avions plusieurs auditeurs de Côte d'Ivoire qui souhaitaient s'exprimer, mais comme nous avons de grosses difficultés à rappeler la plupart de tous ceux qui nous contactent, on n'a pas pu entendre les Ivoiriens, mais Kofi, par exemple, lui, ne comprend pas la décision de la CAF. Il ne comprend pas surtout la façon de faire du président Ahmad, qui décide comme ça dans son coin, dit-il, de retirer la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire sans prévenir les responsables du football ivoirien, sans prévenir la présidence ivoirienne ni même le Premier ministre ivoirien. Donc voilà, il y a un sentiment quand même de colère en Côte d'Ivoire. Il en sera question évidemment tout à l'heure dans Radio Foot International, puisque le président Ahmad, le président de la CAF, sera ici dans nos studios à Paris. Merci à tous de votre fidélité, de l'intérêt que vous portez à l'émission. Lundi, c'est Alexis Friquet.